Alors, si vous avez suivi, si vous avez pu suivre les cultes précédents, il y a un peu un fil conducteur en ce moment dans les prédications que je fais autour de ces chapitres 15-16 de l'évangile de Jean et de ce que Jésus dit à ses disciples avant de les quitter. Jean, au chapitre 16, à partir du verset 5. Donc c'est Jésus qui parle. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande où vas-tu. Mais puisque je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Pour ce qui est de la justice, elle se révèle en ceci. Je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Pour ce qui est du jugement, il consiste en ceci. Celui qui domine ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jusqu'ici, notre lecture. C'est déjà suffisant. Je ne sais pas si vous avez compris ce que dit Jésus. Moi, je dois vous avouer que je trouve ça difficile à comprendre. L'évangile de Jean, c'est beau. Ça fait du bien de l'entendre. Ça sonne bien à l'oreille, ça m'apaise. Mais quand je plonge dans les détails, je me rends compte que c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Alors, prenons les choses méthodiquement. Jésus va partir. Il va être arrêté et mis à mort. Il le sait. Et alors qu'il va partir, il fait cette déclaration stupéfiante aux disciples. Il vaut mieux pour vous que je parte. C'est mieux pour vous que je parte. Voilà une déclaration étonnante, parce que les évangiles nous montrent l'attachement que les disciples avaient pour Jésus. Ils ont d'ailleurs tout quitté pour le suivre. Comment peuvent-ils apprécier son départ? Alors, je le rappelle, c'est le discours d'adieu de Jésus à ses disciples avant son arrestation qui conduit à sa mort. Discours dans lequel il leur donne ses derniers conseils. J'espère que vous vous en souvenez. Il y avait les dernières instructions de Jésus, « Restez attachés à moi et aimez-vous les uns les autres. » Et puis il y avait également cet avertissement, « Attention, vous serez persécutés. » Et là, c'est la troisième chose que Jésus veut leur dire, c'est qu'ils ne resteront pas seuls. Quelqu'un viendra. Voilà une déclaration bien mystérieuse de Jésus. Quelqu'un, celui qui doit venir. Et c'est d'autant plus mystérieux que cet inconnu qui doit venir, Jésus leur dit qu'il est préférable, sa présence est préférable à la sienne, à celle de Jésus lui-même. Je ne sais pas comment les disciples l'ont pris quand ils l'ont entendu, mais je trouve que ça fait un peu discours que l'on sert pour faire passer la pilule quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer. Mais tu verras, c'est pour le mieux. Qu'a-t-il de si bien, celui qui doit venir ? Heureusement, Jésus n'arrête pas son discours ici, il donne des explications, et en lisant la suite de la présentation qu'en fait Jésus, on se rend compte qu'il vient pour deux choses. Il vient pour le monde et il vient pour les disciples. Permettez-moi de commencer par la fin. Jésus, cet envoyé vient pour les disciples. L'avantage de commencer par la fin, déjà, c'est que ça permettra de donner un nom à cet acteur mystérieux, puisque Jésus ne le désigne qu'assez tardivement, au verset 13. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Il s'agit donc de l'Esprit, le Saint-Esprit que nous connaissons comme la troisième personne de la Trinité, celui qui habite dans tous les croyants. Jésus décrit son travail, il les conduit dans la vérité tout entière, il annoncera ce qui doit arriver, il annoncera ce que Jésus lui dit. Tout ceci, il ne le fait pas de sa propre initiative, il est lié à Jésus comme Jésus est lié au Père. Père, Fils et Esprit n'ont qu'une seule voix. Mais là où le Fils n'avait pas été compris, là où il n'avait pas pu dire les choses, l'Esprit vient faire preuve de pédagogie pour expliquer ce qui a été entendu et pas compris. On comprend du coup l'intérêt de sa présence pour les disciples qui se retrouvent seuls, sans Jésus. Mais de là à dire qu'il est préférable à Jésus, si Jésus était resté, alors on aurait pu prendre le temps, lui poser toutes les questions qu'il fallait. Valait-il vraiment mieux avoir l'Esprit que Jésus ? C'est que l'Esprit ne vient pas seulement pour les disciples, mais il vient aussi pour le monde. On peut s'étonner de ce que cet envoyé promis par Jésus ne vienne pas que pour les disciples. Jésus le dit, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Il agit donc comme preuve sur trois points, et la première, c'est le péché. Pour ce qui est du péché, au verset 9, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Vous souvenez-vous, la dernière fois, nous avons vu Jésus expliquer à ses disciples que s'ils avaient des problèmes, s'ils étaient persécutés, c'est parce qu'ils n'appartenaient pas au monde. Nous avions expliqué que le monde dont parlait Jésus, c'est l'humanité qui ne suit pas Dieu, l'humanité qui suit son propre chemin sans écouter son Créateur. Eh bien, le péché du monde, c'est de ne pas croire en Jésus. Tout se résume là. On a vu la dernière fois que rejeter Jésus, c'est rejeter le Père, c'est-à-dire Dieu. Le Père ou Jésus, c'est pareil. Obéir à Dieu, c'est comprendre ce qu'il veut, comprendre ce qu'il fait, entrer dans son plan tout entier. Et pécher, c'est s'opposer à ce plan, à ce dessein. Il ne s'agit pas de compter les trucs qu'on n'a pas bien fait. Un jour j'ai menti, hier je me suis mis en colère. Ça, ce sont des symptômes du péché. Le péché, c'est une maladie plus profonde, une orientation de la vie. Le péché, c'est rejeter Dieu. Et Jésus dit que tout péché, tout symptôme visible du péché, toute mauvaise action, pour prendre un terme que tout le monde comprendrait, c'est le signe du rejet de Dieu et de Jésus-Christ. Deuxième chose sur laquelle l'Esprit vient apporter une preuve, c'est la justice. Pour ce qui est de la justice, verset 10, elle se révèle en ceci, « Je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. » Dans tous les évangiles, Jésus est contesté par le monde et les responsables religieux. Mais dans son évangile, Jean va plus loin, et tout au long de cet évangile, il met en scène un procès, le procès de Jésus. Jésus vient avec des prétentions, celles d'être fils de Dieu, d'être la résurrection et la vie, d'apporter le salut au monde. Et face à lui, le monde et les chefs religieux l'accusent d'être un imposteur. Certes, il est d'une grande sagesse, certes, il fait de beaux miracles, mais il ne saurait être celui qu'il prétend être. Qui a raison ? Jésus ou le monde ? Jésus avance alors quelle sera la preuve de ce qu'il est. C'est lui qui a raison. Il ira auprès du Père. Il n'y a plus qu'à attendre le jugement et nous saurons qui a raison. Troisième preuve apportée par l'Esprit au monde, le jugement de Dieu. Si Jésus est déclaré juste à l'issue du procès, alors qui est coupable ? Qui est condamné ? Pour ce qui concerne le jugement, verset 11, il consiste en ceci : celui qui domine le monde est déjà jugé. Celui qui domine le monde. Jésus en a déjà parlé plus tôt dans l'évangile de Jean. Il s'agit de Satan, le diable, celui qui domine le monde de son influence. Jésus annonce qu'il est déjà condamné, simplement en sursis, en attente de l'exécution du jugement déjà rendu. Ainsi, celui qui doit venir, l'esprit que Jésus va envoyer, est une preuve. J'en reviens à la question. Pourquoi vaut-il mieux que Jésus s'en aille ? Au début de notre lecture, Jésus disait « Si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche Jésus d'envoyer l'Esprit maintenant ? Est-ce qu'il est en train d'agiter une carotte aux disciples du genre « Si vous me laissez partir, je vous envoie l'Esprit en échange ?» Ou pour être un peu plus dans l'esprit de Noël, « Si vous êtes sage, vous aurez droit à un cadeau ?» Je crois que ce qui empêche Jésus d'envoyer l'Esprit, c'est qu'il est un homme. Il n'a pas encore été glorifié. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, semblable à nous. La Bible nous dit qu'il possédait depuis toujours la condition divine, mais qu'il a renoncé à tout ce qu'il avait et qu'il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il est venu dans le monde et il n'a pas été reconnu. Au contraire, il a été contesté, rejeté. C'est le procès, que décrit Jean. On l'accuse de ne pas être celui qu'il prétend être. Mais le jugement a été rendu. Jésus est mort, il est ressuscité, il a été glorifié, il est monté siéger à côté du Père. Et c'est dans cette condition nouvelle, depuis ce lieu, qu'il envoie son esprit dans le monde. Ainsi, le fait qu'il envoie l'esprit est la preuve que tout est terminé et que tout ce qu'il avait dit était juste. Il n'y a plus de doute. Celui qui écoute sa parole et croit en celui qui l'a envoyé possède la vie éternelle. Il échappe au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le fait que l'Esprit soit envoyé est une preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Il est bon d'avoir cette confirmation pour notre foi, il est bon d'avoir cette confirmation pour les disciples, pour leur foi. Mais ce n'est pas tout. Parce que après le départ de Jésus, ce sont ses disciples qui se retrouvent seuls dispositaires du message de l'Évangile dans un monde qui en a cruellement besoin. Quelle responsabilité ! C'est pour cela que Jésus les équipe en leur donnant son esprit, qui leur rappelle et leur explique son message. Mais là encore, l'Esprit n'est pas un pis-aller. Au contraire, Jésus dit que sa présence manifestera sa gloire. Et cela parce qu'après le temps de l'incarnation, nous entrons dans le temps de l'Église. Ce n'est plus un homme qui portent le message partout où ils passent, mais des hommes, d'abord une douzaine et bientôt une multitude, parce que ces disciples font à leur tour des disciples. Et Jésus le dit à ses premiers disciples, cette situation est avantageuse pour eux. Certes, ils ont perdu la proximité d'avec le maître, mais ils deviennent maintenant les acteurs principaux de l'avancée du royaume de Dieu dans le monde, d'une avancée qui ira d'autant plus vite que ses messagers sont plus nombreux. Quel privilège! Quel privilège ont-ils? Oui, il est avantageux que l'Esprit vienne remplacer Jésus. Par cette venue, les disciples ont la preuve que Jésus avait raison. Et ils ont désormais le privilège d'être les acteurs de l'avancée du royaume de Dieu. Nous avons parlé des disciples, de ceux qui reçoivent cette parole de Jésus. Mais pour nous, 20 siècles plus tard, avons-nous conscience de l'avantage que nous avons d'avoir l'Esprit ? Dans ce texte, ce n'est pas à nous directement que Jésus s'adresse. Et nous, nous n'avons pas connu ce changement, passé de la présence réelle et constante de Jésus à celle de son Esprit en nous. L'ayant reçu lors de notre conversion, sans doute ne nous posons-nous même pas la question. Mais ne connaissons-nous pas des situations comparables? Ne pouvons-nous pas nous trouver parfois dans une situation où nous apprécions de nous trouver dans l'ombre d'un maître, un chrétien mature, un pasteur, un grand frère, une grande sœur dans la foi, qui nous enseigne et qui nous rassure? Nous marchons à côté de lui, nous l'écoutons avidement nous parler de Jésus, nous lui posons nos questions, nous sommes prêts à faire ce qu'il nous dit. Mais ce à quoi Jésus nous appelle, c'est à devenir à notre tour un disciple accompli. Un disciple accompli ne veut pas dire un disciple qui n'a plus besoin des autres. Jésus a voulu qu'en permanence, les disciples aient besoin les uns des autres, dans un corps uni. Mais un disciple accompli, c'est un disciple qui avance par l'Esprit que Jésus a placé en lui, qui se lance dans la responsabilité que Jésus lui a confiée de faire avancer le royaume, qui vit cette aventure exaltante d'œuvrer pour lui. Et tout comme l'enfant n'est pas destiné à rester toujours dans la maison de ses parents, nous sommes destinés à devenir des croyants adultes. Et en ce temps de l'Avent, souvenons-nous que Jésus est venu sur terre pas seulement pour nous sauver de notre péché, mais il est également venu pour se constituer une église qui œuvre pour lui. Et recevons l'invitation à prendre part à son appel avec joie. Amen.